Madame Julien, aujourd'hui, Monsieur Julien va évoquer la vie tragique des Saint-Antoninois après le siège de 1622. Quelle musique avez-vous choisie?
Eh bien, nous entendrons d'abord une chanson traditionnelle du Languedoc qui remonte, semble-t-il, au XVIIe siècle. Et voilà donc respecter enfin la concordance des époques. Cette chanson dit les malheurs venus de la guerre. À la guerre au Seba, ne torno gaire, c'est-à-dire à la guerre quand on y va, on n'en revient pas souvent. On comprend mal les paroles de cette chanson quand on n'est pas familier de la langue occitane, mais la mélodie est suffisamment expressive pour que l'on en comprenne l'intention. C'est une cornemuse qui accompagne le chanteur. Puis, nous suivrons deux envoyés des consuls partis sur les routes à la recherche du roi, et ceci aux accents d'une bourrée languedocienne très champêtre. Enfin, voici le roi et sa suite. Nous le trouverons occupé à danser une bourrée de cour, datant précisément de cette époque. Cette bourrée de Praetorius, un musicien allemand, et elle faisait effectivement partie du répertoire de la cour de France.
Monsieur Julien, depuis 60 ans, les Saint-Antoninois sont meurtris par les guerres de religion. Depuis 15 jours, ils soutiennent le siège des armées du roi de France. Et le 24 juin 1622, c'est la défaite.
Eh oui, en ce 24e jour du mois de juin 1622, la ville rebelle de Saint-Antonin, en dépit de l'ardeur, de l'abnégation et du courage de ses habitants, hommes comme femmes, nous l'avons vu, est matée par l'armée royale dont les soldats occupent la ville qui est à leur merci. Déjà 12 des principaux habitants ont été pendus. Et malgré les promesses royales, le pillage a déjà commencé. Et la plus grande partie des étains et des cuivres sera emportée à Villefranche et à Cahors, avec les 2000 soldats royaux blessés, que l'on dirige principalement sur la sénéchaussée pour les faire soigner. C'est la stupeur chez tous, le désarroi dans les esprits et l'amertume dans les cœurs. Cette fois, l'Éternel ne nous a pas été favorable, et nul secours ne nous est venu de nos frères de Montauban, ni du duc de Rohan, à la suite duquel nous étions engagés contre le pouvoir royal. C'est la désolation dans cette ville, ruinée par les combats, où les vivres maintenant manquent, où de nombreuses familles sont en deuil, et les blessés nombreux aussi. Et pour mettre le comble à cette misère, la munificence, entre guillemets, royale, frappe la communauté d'une amende de 100 000 livres pour la garder, je cite, du pillage des habitants et du violement des femmes.
Mai nes turna de Joan Francis pas en caro sa mai le vin veni per un braç que verde ja vol que ne por toi meu filho que por toi de tai batallos que ne por Doi miu filio de tutto il in battaglio entre io e mon caval ne pur dan vinti il nau plago mon caval
Monsieur Julien, Saint-Antonin était une ville plus importante qu'elle n'est aujourd'hui. Mais 5000 livres, est-ce que ce n'était pas un peu démesuré par rapport à l'importance de la ville?
5000 livres, c'est une somme énorme. Impossible à traduire en espèces actuelles. Qu'on sache que le budget de la communauté à cette époque-là atteignait au maximum 15 000 livres par an. En ces années pourtant coûteuses, où les dépenses de guerre et de fortification seules prenaient plusieurs milliers de livres, qu'on sache qu'un travailleur manuel, un maçon, touchait 15 sous par jour, trois quarts de livre, qu'une visite de médecin se payait une livre, autant qu'un bon repas comme aujourd'hui, qu'un cheval se vendait entre 35 et 45 livres. Alors, si vous voulez vous livrer au jeu dangereux des équivalences, vous pouvez évaluer entre 6 et 8 millions de francs actuels le montant de cette amende, soit presque 1 milliard de centimes. Or, la ville est incapable de payer une pareille somme, car elle s'est déjà beaucoup endettée pour les préparatifs de guerre et pour soutenir le siège. Et il faut en outre payer dans les 6 mois. On plaint rétrospectivement les 6 consuls, paradoxalement maintenus en charge par le pouvoir royal. C'est étonnant, ça. On les a laissés là. Mais le pouvoir royal savait ce qu'il faisait. Ils étaient les seuls, eux, à pouvoir trouver la solution, et vite. Il ne nous reste malheureusement aucun document relatant leurs délibérations, qui nous aurait fait part de leurs ennuis, de leurs angoisses. Et c'est dommage. Mais leurs livres de compte sont par bonheur arrivés jusqu'à nous. L'étude et aussi l'interprétation, faut-il le dire, de ces comptes détaillés nous permettent de retracer leur démarche, les sollicitations innombrables afin de réorganiser l'administration municipale, rendre goût et pouvoir de vivre à une population traumatisée et surtout se procurer de l'argent, en pliant l'échine et le genou devant les représentants du pouvoir royal. Ces consuls étaient, et je crois que nous devons citer leur nom pour leur rendre hommage, en cette funeste année 1622, Pierre Martin, docteur en droit, qui avait négocié, rappelez-vous, la reddition de la ville, Pierre Laloze, bourgeois, Guillaume Cavagnac, marchand, Abel Guéral, notaire, Jean Roussennac, cordonnier, et Jean Bourès, paysan. Voyez, parmi ces noms, certains se sont maintenus jusqu'à nos jours. La situation est dramatique pour cette ville déclarée rebelle et donc mise au ban de la nation comme un membre gangrené. Et on agite envers elle sans aucun ménagement. Dès le 24 juin, on met en prison 6 des plus riches habitants en garantie du paiement de la rançon, ainsi qu'en témoigne ce texte émouvant, extrait des pièces comptables. Entre parenthèses, je voudrais ici rendre hommage à M. Raymond Granier de la Guépie, qui a lui aussi analysé ces pièces et qui les a classées dans des chemises, de façon telle qu'actuellement leur consultation est extrêmement rapide, et il m'a beaucoup facilité le travail pour ça. Voici ce texte. Le 24 juin, de bon matin, nous avons été faits prisonniers, maître Pierre Philippi, docteur en droit, Pierre Laloze, second consul, Jean de Juste, bourgeois, Durand Canitro, aussi bourgeois, Antoine d'Abel, docteur en médecine, et Antoine d'Ardenne, marchand, par monsieur le comte de Scombert, pour la somme de 5000 livres que la ville de Saint-Antonin a été contrainte de s'obliger à sa majesté pour se racheter du pillage des habitants d'Issel. Dans le logis de maître Pierre Brun, apothicaire, où, étant le dit seigneur maréchal de Thémines, nous avait baillé 6 soldats de sa garde pour l'assurance de nos personnes, auxquels nous a fallu payer leurs dépenses, laquelle dépense, tant des 6 soldats de garde que de nous 6 prisonniers, est de 10 sous par homme et par jour. Voilà ce texte. ils resteront prisonniers jusqu'au 21 juillet 1622, un mois donc presque, et la ville doit payer pour leur détention au total 232 livres, 4 sous, 8 deniers, et il n'y a pas un sou en caisse.
E mon cavalli pur dan vinti il naufrago, e mon cavalli porto la inau, io paure tutto la sautro, mamma ire, feime le lieni de murare pagaire. A mie giorni in un cavallo e appunto dal volume ramera re de flor un cavallo de tutto sarmo ne saran le spazzigian diran chi no bello tumbo passaran le spazzigian diran chino bello tumbo, la tumba del figlio del re che ne ha forso battaglio, la tumba del figlio del re che ne è morta la battaglio, e la scampano i di Madrid unaran a pino dal mosso, unaran per un barunca gagnan por su battaglio, unaran per un barunca che ne è morta la battaglio.
Il n'y a plus un sou dans les caisses de Saint-Antonin. Et pourtant, monsieur Julien, les consuls doivent impérativement trouver de l'argent.
Et oui, alors ils adressent une humble supplique au maréchal de Thémines, gouverneur de Guyenne. Restez ici après le siège, par ordre du roi. Ils le supplient humblement qu'il les autorise à lever sur les habitants les plus aisés de la ville la somme de 500 livres, en raison des grandes dépenses à faire pour aller à Toulouse et autres lieux, pour payer la rançon et la dépense des prisonniers et de leurs gardes. Le 30 juin, Thémines, enfin, autorise une imposition de 300 livres. C'est peu, on le voit. Et cette imposition devra être faite sur tous les habitants. Il se méfie un peu des consuls. Il a peur qu'il n'impose que les catholiques, vous comprenez? Et on a dû graisser la pâte encore pour que la supplique parvienne à Thémines. Il a fallu graisser la pâte à son laquais, avec une pistole d'Espagne qui vaut, à ce moment-là, 7 livres, 7 sous. Alors on demande l'argent, il faut en dépenser pour en avoir. C'est terrible. Dès lors, au fil du livre des comptes, se déroule l'interminable série des voyages entrepris par les consuls ou leurs députés pour trouver des créanciers et aussi et surtout essayer de s'attacher la bienveillance de quelques grands personnages susceptibles de nous faire rentrer en grâce auprès de sa majesté irritée. Thémines, à cet égard, semble avoir été l'un des plus compatissants au malheur de Saint-Antoninois. On peut le rencontrer facilement, ici à Saint-Antonin ou dans les villes proches, puisqu'il séjourne dans le Bas-Quercy pendant plusieurs mois, chargé par le roi, nous disent les textes, de faire le dégât autour de Montauban. Et vous comprenez ce que ça veut dire. Montauban, une autre ville rebelle. La lettre suivante, autographe, tout à fait autographe, entièrement autographe de Thémines, témoigne de sa sollicitude à notre égard. Voulez-vous l'entendre? Elle est datée de Saint-Cyr. Messieurs les consuls, j'ai estimé vous devoir donner avis de mon retour, croyant que vous en serez bien aise. Je pars d'ici ce matin pour aller dîner à Cahors, où je prie quelqu'un de vous de m'y venir trouver partout le jour de demain samedi. Je n'écris point à monsieur de Haupoul le croyant à présent à Toulouse. Je vous attendrai donc, et suis, messieurs les consuls, votre plus affectionné ami, à vous servir. Thémine. C'est pas beau, ça? C'est grâce à lui que les députés envoyés des consuls obtiendront du roi Louis XIII les lettres patentes d'abolition de la rébellion datées de Castelnaudary du début de juillet 1622 et dont voici un extrait. Je vous lis le texte tel qu'il se présente avec son orthographe. Avons de notre grâce spéciale, pleine puissance et autorité royale, quitté, remis, pardonné et aboli. Quittons, remettons, pardonnons et abolissons les crimes, rébellions et offenses commises tant en général qu'en particulier par les consuls et habitants de Saint-Antonin depuis le commencement de ces mouvements jusqu'à la réduction de la dite ville à notre obéissance. Donc nous voulons que la mémoire demeure éteinte et supprimée et que ce faisant, les dix consuls et habitants de la dite ville puissent vivre et demeurer et résider, est-ce leur maison, en toute sûreté, sous l'observation de nos édits et ordonnances, et faire et pratiquer en la dite ville l'exercice libre de leur religion, ainsi que sous louer faire par le passé, sans qu'ils en soient troublés, inquiétés, ni molestés. Voilà cette portion des lettres patentes. C'est en quelque sorte la levée de la loi martiale. C'est le pardon inespéré, et avec lui le droit de pouvoir présenter requêtes et suppliques. Mais ce n'est là encore qu'une déclaration d'intention. On observera que ces lettres patentes, contrairement aux précédentes de tous les autres rois, ne confirment pas les privilèges de la cité. Ces lettres patentes, pour qu'elles deviennent exécutoires, qu'elles aient force de loi, doivent être officialisées par un arrêt du Conseil d'État du roi, qu'il faut aller solliciter, il ne viendra pas tout seul. Le roi et sa cour et son conseil sont en Languedoc par là-bas qui poursuivent la guerre contre les protestants en cet été 1622. On dépêche donc le 3 août 1622 deux députés, Jean Palotte et Jean Canitro, de vers la cour pour obtenir ces documents. Et alors nous, ce qui est touchant, nous possédons la note de frais de ces deux envoyés pour leur voyage à la poursuite du roi. C'est un document particulièrement savoureux. Suivons-les. La veille de leur départ, ils achètent 2 chevaux. Eh oui. Et alors, ce qui est curieux, ils nous précisent bien que pour Monsieur Jean Palotte, on achète un cheval blanc. Mais Canitro, il ne nous dit pas de quelle couleur est son cheval. Ce qui est sûr, c'est que le cheval blanc de Palotte est plus cher que l'autre. Et ils engagent 2 garçons, 2 laquais, si vous voulez, 2 domestiques. Et alors là, on ne sait pas comment y vont les domestiques. Certainement à pied, parce qu'on ne parle jamais ni des mulets ni des chevaux des domestiques. Ils quittent donc Saint-Antonin le 3 août pour Millars, où ils font collation, et ils arriveront le soir pour coucher à Castelnau. Entendez, Castelnau-Montmirail. Le lendemain, par Gaillac, à Rabastens, et la pointe, aujourd'hui nous l'appelons Saint-Sulpice. Après avoir passé l'eau, c'est-à-dire le Tarn, sur un bac, ils arrivent pour coucher à Roquesserrières. Vous savez sans doute pas où c'est, mais regardez la carte. Ils en repartent le vendredi 5 pour Toulouse, où ils coucheront. Et ils s'y reposent, là, une bonne journée. Ils font blanchir leur linge, celui des garçons. Le samedi, ils reprennent la route par Bazièges et Villefranche de Lauragais. Et ils arrivent à Castelnaudary pour le coucher. Ah, mais voilà, la cour n'est plus là. Le roi est parti. Il est vers Montpellier. Le dimanche 7, on couche à Carcassonne. Le 8, à Narbonne. Et le mardi 9, les voilà enfin à Béziers, où ils vont rester jusqu'au dimanche suivant. On fait emplette d'espadrilles pour les garçons, 2 souliers pour Palotte, 2 trivières neuves, 2 bouteilles en verre, ça je me demande pourquoi, et on dépense en tout, à Béziers ce jour-là, 34 livres 16 sous. Il fait chaud. Le dimanche 14, on quitte Béziers, et on va coucher à Saint-Tibéry. Le 15, on passe l'eau pour aller coucher à Frontignan. Le mardi 16, après avoir payé pour franchir les étangs et le gros, ils arrivent à Aigues-Mortes où ils couchent. Le mercredi 17, ils sont partis depuis 15 jours, hein, voyage à Lunel, où est le roi. On prend le vent, on s'informe, on fait sa cour et on revient coucher à Aigues-Mortes. Le 18 août, après avoir fait blanchir les chemises des garçons, sans doute pour qu'ils soient plus présentables, le groupe sera à Marcillargues, c'est à 1 lieue avant Lunel, où on séjournera jusqu'au vendredi 26 après-midi. De là, ils arrivent à Lunel et font écrire leur requête. font rédiger une copie des lettres d'abolition et font remettre le tout à Monsieur de Machaut, secrétaire du Conseil royal, évidemment en graissant la patte à son laquais, toujours, avec des pistoles d'Espagne. Ce jour-là, ils couchent à Lunel. Ils ont dû pouvoir trouver abri. Mais ils le quittent le lendemain pour s'en retourner à Frontignan, où ils passeront plusieurs jours jusqu'au 6 septembre. Pourquoi séjournent-ils si longtemps à Frontignan, justement? C'est que c'est leur base d'action. Vers Pignan, où ils retirent deux arrêts du Conseil d'État du roi. Sans doute, Pignan est proche de Montpellier. C'est là que résidaient les membres, les conseillers d'État. Ils retirent donc deux arrêtés du Conseil d'État auprès de Monsieur Fontelier, et ils se vont aussi à Moguio, où ils vont faire copie des deux arrêts. Alors, vous voyez, les arrêts sont délivrés à Pignan, mais les copies, elles ne peuvent pas l'être à Pignan. Il faut aller à Moguio pour les faire copier. Et ils font sceller aussi à Moguio les deux arrêts, ce qui leur coûte deux pistoles, sans compter les pourboires divers qu'il a fallu donner aux uns et aux autres. Enfin, ils ont les précieux documents. Et ils peuvent repartir. Mais vous verrez que ce n'est pas fini. Ils repartiront le 7 septembre de Frontignan vers Toulouse, où ils arriveront le dimanche 11, après être repassés à Saint-Tibéri, Béziers, Narbonne, Carcassonne. Là, à Toulouse, ils vont faire enregistrer leurs documents par le Parlement. En effet, un arrêt du Conseil du Roi ne peut être exécuté en province que s'il a été enregistré par le Parlement de Toulouse pour nom. Les documents enregistrés, ils achètent une boîte en fer blanc pour les enfermer et les protéger. Coûte 48 livres 19 sous. Alors, on fait à neuf le cheval blanc, on fait panser l'autre cheval qui avait été blessé, sans doute par la selle, et on fait changer cette selle. On fait blanchir le linge de tout le monde. Et on repart le mardi 13 septembre pour Saint-Antonin, où on arrive enfin le mercredi 14 septembre au soir, après 43 jours d'un voyage qui aura coûté à la communauté 490 livres, 7 sous, 6 deniers, y compris bien sûr le coût très élevé des documents officiels, cet arrêt du Conseil d'État du roi du 25 août 1622, qui interdit à quiconque de troubler les habitants de Saint-Antonin dans la jouissance de leurs biens et décide que la rançon de 100 000 livres sera levée par une imposition équitable sur tous les habitants avec le concours des receveurs des deniers royaux. Eh bien, c'est quand même un résultat. Le voyage a été long, pénible, difficile, mais enfin, on est arrivé à quelque chose. Mais malgré la bonne volonté des consuls, malgré les prêts accordés par Thémines, Sully et Madame de Pardaillan, qui sont les trois principaux prêteurs, la ville ne pourra se libérer de cette énorme rançon que le Conseil d'État du roi, sur l'intervention à nouveau de Thémines, réduira de moitié le 18 novembre 1623, à condition que les consuls de Saint-Antonin s'acquittent cette fois de leurs dettes dans les 6 mois. Alors, on empruntera encore. Le poids des intérêts des nombreuses dettes pèsera pendant des dizaines d'années sur les finances locales. Notre ville a été totalement ruinée et commence là son déclin économique.